Une vie, une œuvre, c'est samedi, 16h, c'est tout de suite. Ludwig Mies van der Rohe, 1886-1969. Aujourd'hui, une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celui qui est passé du Bauhaus de Weimar, puis Dessau, à la Skyline de Chicago. De celui qui a imaginé le Seagram Building, la Farnsworth House et la Neue Nationalgalerie de Berlin. Celui, enfin, dont il nous reste un adage, dont on n'est pas sûr qu'il est vraiment de lui, Less is more. Sur la plupart des photos, Ludwig Mies van der Rohe est déjà vieux, assuré, assis, installé, massif, sérieux, presque impénétrable, avec un faux air de Diego Rivera, d'Orson Welles jeune, voire de Bernard Blier. Toujours impeccable, costume, cravate et pochette de poitrine immaculée, il a pourtant d'éternelles poches sous les yeux et un épais cigare à la bouche ou entre les doigts. Sur d'autres images, on le voit à travers les maquettes de ses villas, en transparence, derrière l'angle d'une équerre ou nonchalant sur sa chaise tubulaire, comme suspendu dans le vide. Mais il doit savoir rire, car sur une photo, on le voit franchement sourire, à moins qu'il ne se moque. Il est âgé, très âgé, tout ridé, et il cabotine, comme un jeune homme, aux côtés de Jackie Kennedy. Alors 120 ans après sa mort, il faut se dire que pour Ludwig Mies van der Rohe, la simplicité est un long voyage. Un documentaire de Camille Jusa et Lionel Quentin.
Meinen langen Leben habe ich immer danach gesucht, worum sich eigentlich dreht bei der Baukunst.
Tout au long de ma vie, j'ai essayé de comprendre à quoi servait l'architecture.
Mehr und mehr zu der Überzeugung gekommen, dass die Baukunst unsere Zivilisation.
Et de plus en plus, je suis convaincu que l'architecture doit permettre à notre civilisation d'exprimer ce qu'elle a de plus fondamental.
Nicht in den nebensächlichen Wünschen, sondern das Essentielle.
Pas ses aspirations accessoires. C'est bien ce qu'elle a de plus essentiel qui doit être travaillé. C'est cela, à mon avis, la raison d'être de l'architecture. Bien sûr, c'est un long processus, et tout ce que j'ai fait dans la vie a été d'essayer de m'en approcher pas à pas. Vous savez, on ne peut pas inventer une nouvelle architecture tous les lundis matins. C'est très naïf de penser cela. L'architecture, c'est quelque chose de très sérieux. Elle a donné son nom aux époques, et cela sera toujours ainsi.
Ludwig Mies van der Rohe.
Ludwig Mies van der Rohe.
La simplicité est un long voyage.
Die lange Reise zur Einfachheit.
Sur une photo de Mies dans son appartement de Chicago, à la fin des années 50, on le voit assis dans son très beau costume avec sa pochette de soie, un Havane à la main sur une chaise en tube d'acier qu'il a inventé environ 30 ans plus tôt, à la fin des années 20, au mur derrière lui, une partie de sa collection de tableaux de Klee, je crois qu'il en avait 26. Le premier lui avait été donné pour son 50e anniversaire, peu avant qu'il quitte l'Allemagne, en 1937, et les autres, il les acheta par la suite à New York. On lui demandera, mais pourquoi vous qui faites de si beaux appartements n'habitez pas dans une de vos tours? Il dira, mais avec les murs en verre, je ne pourrais pas accrocher mes tableaux de Paul Klee.
Ce qui est assez intéressant, c'est de voir où il habitait, à Chicago. C'est-à-dire, elle habite dans un bâtiment de l'école de Chicago. On ne s'attend pas à le voir tout à fait à cet endroit, au premier étage, de mémoire. Enfin, il n'était pas ni en haut du bâtiment. Donc il y a une dimension que moi j'ai trouvée un peu ordinaire, qui m'a beaucoup plu.
C'est un homme costaud, massif, solide. Pourtant, il n'était pas d'origine terrienne, il était d'origine urbaine. C'est quelqu'un qui était extraordinairement élégant et, je dirais, très attentif à sa mise. On le voit dès les débuts, sans doute la première photo dans laquelle on le voit en costume devant la première maison qu'il construit à Berlin autour de 1910. On le voit sur les photographies de chantier qui le montrent impeccable, ses chaussures cirées, sa pochette en soie toujours dans la boue de la construction. Donc c'est quelqu'un qui était bien mis de sa personne, qui avait une espèce d'autorité naturelle, mais qui était aussi un homme d'une certaine douceur, à ce que l'on perçoit de ce qu'en disent ses élèves et ses connaissances.
Vous savez, il y a quand même, de temps en temps dans la vie, on rencontre quelqu'un qui dégage une espèce de force intérieure, force qu'on comprend, n'est-ce pas? Il y avait une espèce de pays dans lui-même, on le sentait, je ne sais pas comment le dire, un peu vulgairement, comme quelqu'un qui se sentait bien dans sa peau et qui avait une philosophie qui le rendait, pas sûr de lui-même, c'est pas ça, mais posé, je dirais.
Le premier bâtiment de Mies van der Rohe que j'ai vu était la Neue Nationalgalerie de Berlin, alors que j'étais encore, j'étudiais aux Arts Déco à l'époque. Et en fait, je dois dire, à cette période-là, je connaissais pas plus Mies van der Rohe qu'un autre architecte, ça faisait un peu partie d'un nom qu'on entendait, mais qui fait pas partie tant que ça de la culture générale, on va dire.
Stéphane Zimmerli.
Et en fait, en arrivant à Berlin la première fois, j'étais allé pour une raison très intime, c'était une recherche vraiment sur la mémoire et l'atmosphère. Il y avait quelque chose qui me taraudait à Berlin absolument, comme des sortes de... C'est ce qu'on appelle la Stimmung, non ? D'une ville. C'est l'atmosphère de cette ville qui était comme présente dans ma mémoire, je ne sais pas pourquoi. Et puis, en arrivant là-bas, j'étais hébergé chez une amie qui m'a dit « Est-ce que tu connais la Neue Nationalgalerie ? C'est le bâtiment le plus extraordinaire de Berlin. » J'ai dit « Non, j'en ai jamais entendu parler, qu'est-ce que c'est ? Amène-moi. » Et donc, elle m'a amené dans cette chose à la fois très, très simple et très étrange. Et au début, on se dit, mais pourquoi est-ce que c'est si génial quand on ne connaît pas, on n'est pas encore architecte, on n'a pas... Donc finalement, j'ai pris ce bâtiment-là comme de la pure atmosphère, parce qu'il donne à voir Berlin, finalement, plus qu'il se donne à voir lui-même. Alors, c'est plutôt ça qui m'a marqué la première fois. On cherche pendant longtemps au départ où sont les œuvres, où sont les collections, où est le musée, puisqu'on ne nous donne qu'un volume vide. Il y avait une sorte de, d'équilibre étrange entre la poétique de la construction, c'est-à-dire vraiment presque l'acte de bâtir, le détail d'assemblage, le choix du matériau et la manière de le révéler, et quelque chose de complètement mental, complètement abstrait, complètement presque immatériel. Et je pense que c'est, pour moi, ça a été ma première introduction à ce qu'on pourrait appeler l'architecture conceptuelle, finalement, qui n'est pas que de la construction pure, qui n'est pas non plus une recherche formelle ou stylistique ou je ne sais, enfin, quelque chose de visuel. C'est l'idée, finalement, qui reste quand on en parle de ce bâtiment.
Surface de la toiture, 4120 m². Hauteur libre sous toiture, 8,40 m. surface brute au sol 2540 mètres carrés, porte-à-faux 18 mètres.
Jean-Louis Cohen.
C'est un pavillon en acier. Le bâtiment comprend deux niveaux. Un niveau, niveau inférieur assez opaque, mais éclairé par quelques patios, comprend les collections permanentes de la galerie. Le niveau supérieur est un pavillon en acier. Une table d'acier d'environ 80 mètres de côté, portée par 8 poteaux cruciformes en acier et enveloppée d'un pan de verre. Un espace complètement disponible pour toutes sortes d'expositions, ce qu'il a amplement démontré depuis. Et c'est avec ce bâtiment que Miss effectue un retour triomphal dans une ville qu'il avait vu tenter à toute force de s'imposer comme architecte dans les années 20 et 30, une ville dans laquelle il avait son bureau qui a disparu, qui n'existe plus, en face d'ailleurs, de l'autre côté du canal, face à la National Gallery. Donc il y a une sorte de revanche monumentale. Je dresse mon grand bâtiment face à ce qui fut mon agence dans cette ville dont je fus chassé d'une certaine manière.
À chaque fois que j'y retourne, j'aime bien faire ça, m'asseoir au milieu et attendre. Et plutôt seul. En général, il vaut mieux être seul. On ressent beaucoup mieux ces espaces. Et voir comment, finalement, ce sont des bâtiments qui sont des sortes d'attracteurs d'atmosphère, finalement, qui viennent juste la condenser et nous permettre de la voir mieux, presque, que si on était juste au milieu de la rue, tout simplement. Donc ça agit comme une sorte de cadre. On pourrait dire d'éponge à perception.
One clue to where architecture is going is to look in the direction from which it has come. Here, three great architects from Chicago, Boston, and Los Angeles talk about their own past. Mies van der Rohe.
I think if somebody takes his work seriously, and even if he's relatively young, you know.
Je pense que si quelqu'un prend son travail au sérieux, même s'il est jeune, il est forcément influencé par d'autres personnes. C'est ainsi, on n'y peut rien. J'ai été influencé par les bâtiments anciens. Je ne pourrais pas vous dire qui les a construits, mais c'était des bâtiments la plupart du temps très simple. J'étais très jeune, même pas 20 ans. J'étais impressionné par la force de ces bâtiments anciens. Parce qu'ils n'appartenaient à aucune époque particulière. Ils étaient là depuis des millénaires, toujours debout, toujours impressionnants, et rien ne pouvait les atteindre. Tous les grands styles avaient disparu, mais les bâtiments étaient toujours là. Ils n'avaient rien perdu, comme au premier jour de leur achèvement.
Tout commence à Aix-la-Chapelle. C'est à Aix-la-Chapelle que le jeune Ludwig Mies est né. Et c'est extrêmement important pour comprendre son développement, la construction qu'il fait de lui-même. Son père était entrepreneur de pierre taillée, donc construisait des tombeaux, des plaquages de marbre. Donc je dirais que Mies est né dans la pierre. Et c'est très important de garder ça à l'esprit quand on voit le soin avec lequel il a travaillé sur le marbre poli, sur les assemblages de briques. C'est quelqu'un qui a, dès son enfance, été au contact de la construction. À part ça, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études d'architecture. Et il le payera cher aux États-Unis, où on lui interdira de signer lui-même le Seagram Building à New York, parce qu'il n'avait pas de diplôme. Je dirais au passage qu'il est quand même frappant que les trois grandes figures dont on peut parler, auxquelles on peut rapporter beaucoup des idées modernes, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier et Mies, n'ont pas fini leurs études d'architecture. Mies ne les a même pas commencées. Mies fait des études techniques assez rapides et va ensuite travailler chez des architectes berlinois. Le jeune provincial, avec un énorme complexe d'infériorité, rencontre le monde à Berlin. Et ce complexe d'infériorité s'exprime par exemple dans son nom. Miss en allemand signifie médiocre, petit. Et donc pour quelqu'un qui avait des ambitions considérables comme Miss, c'était un nom qu'il convenait de changer. Et là encore, comme Frank Lloyd Wright qui a triché sur sa date de naissance et Le Corbusier qui s'appelait initialement Charles-Édouard Jeanneret, Ludwig Miss devient Van der Rohe, ajoutant une particule au nom de sa mère qui était d'origine belge. Cela interviendra en 1920 lorsqu'une nouvelle carrière s'ouvre à lui dans l'Allemagne de Weimar. Mais avant 1914, l'épisode le plus important, c'est le travail qu'il fait dans la grande agence de Peter Behrens. Peter Behrens est à l'époque l'architecte de l'AEG, de la très grande entreprise de construction électrique fondée par les Rathenau. Et donc Miss travaille dans l'usine, dans l'agence, pardon, qui ressemblait à une usine de Behrens, aux côtés de Walter Gropius. Il y croise le jeune Le Corbusier, qui fait un stage et qui détestera Behrens. Pour Miss, Behrens est au contraire une force très importante, aussi un modèle pour lui, celui de l'architecte au service de la grande industrie. Et chez Behrens, il apprend à travailler sur les matériaux nouveaux.
...1908. Dessin de la façade sur cour et des portiques métalliques en double T de la Turbinenhalle de AEG. 1910. Première maison pour les Riehl à Potsdam. 1913. Mariage avec Ada Brun et ouverture de son agence. 1921. Projet de gratte-ciel en verre, non réalisé.
I was always impressed by skeletons of skyscrapers.
J'ai toujours été impressionné par le squelette des gratte-ciel. Je me disais, si seulement c'était possible de les laisser comme ça. Si le temps pouvait être clément, même en hiver, et qu'on ne soit pas obligé de les fermer, ce serait merveilleux. Alors je me suis dit qu'on pourrait simplement mettre du verre tout autour, adossé à la structure.
On peut dire que l'architecture du XXe siècle, bon, l'architecture moderne si on veut, a opéré sur de très, très fortes visions. La vision de Miss, en particulier après 1920-21, dans le contexte de l'Allemagne de Weimar, Miss est liée au groupe dadaïste berlinois, donc Miss est au contact de ces architectes radicaux, et c'est ainsi qu'il élabore quatre projets fondamentaux. Le premier, c'est un gratte-ciel de verre qui constitue sa réponse à un concours organisé sur des terrains du centre de Berlin à la Friedrichstrasse en 1921. Personne n'avait dessiné un gratte-ciel de verre dans le monde, et les Américains moins que tous les autres. Donc c'est cette idée du déshabillage du gratte-ciel et de son réhabillage avec un pan de verre. C'est une idée très forte.
You know, the first skyscraper.
Le site du premier gratte-ciel que j'ai dessiné était triangulaire. J'ai étudié les murs de verre de Berlin et tantôt c'était des grands pans éblouissants. Tantôt absolument éteints.
Some differentiation in the glass.
Moi, je voulais qu'il y ait des différenciations dans le verre. Alors même si c'était un triangle, j'ai légèrement arqué les façades
in each side.
Et on a obtenu un jeu de reflets.
Thank you.
Dominique Perrault.
Alors le verre est un matériau vraiment extraordinaire parce que comme il laisse entrer la lumière, eh bien on va organiser un certain nombre de systèmes qui vont permettre de filtrer cette lumière, de la rendre économe ou bien au contraire de l'utiliser pour tel ou tel besoin. Et donc on va agir sur ce verre ou par rapport à ce verre. C'est-à-dire que comme ce sont des bâtiments qui sont extrêmement perméables à la lumière, donc à la relation avec la pluie, la neige, tout ce qui se passe autour du bâtiment est perçu de l'intérieur du bâtiment lui-même. Et donc on bouge, on modifie, on veut se protéger, au contraire, on veut ouvrir parce que il fait, le temps est magnifique, je ne sais pas, enfin bref. Donc il y a un comportement qui n'est pas, enfin moi c'est comme ça que je le vis et c'est ce que j'aime dans ce type d'architecture, c'est que on est soi-même au milieu du paysage. Et donc, je bouge, je ferme, j'ouvre. Pour moi, je ne suis pas du tout assigné à résidence dans ce type d'architecture, bien au contraire.
C'était un laconique. C'est un homme de peu de mots, économe de ses mots, et donc il a donc écrit à tout casser peut-être 200 pages au total dans sa vie. Contrairement à Le Corbusier qui a formulé ses idées en les rassemblant dans 5 points d'une architecture nouvelle en 1927, Mies n'avait pas cette pulsion prophétique ou cette pulsion dogmatique. Donc il n'a jamais dit « mon architecture, ce sont 5 points ». Son manifeste le plus important est celui qui accompagne l'immeuble de bureau en béton, à l'occasion duquel il dit, je paraphrase, l'architecture, ça n'est pas de la nouille. Il utilise le terme « nouille », « taigvare », par référence au style nouille, c'est-à-dire à l'art nouveau et aux courbes de l'art nouveau. L'architecture, ce n'est pas de la nouille, mais ce ne sont pas non plus des bunkers, pour critiquer les architectes qui, avec le béton, font des constructions très lourdes. L'architecture, c'est Raumgefasste Zeitwille, c'est la volonté de l'époque mise en espace. Donc c'est ça son slogan, et ce sera son programme, mettre en espace la volonté de l'époque, c'est-à-dire la volonté d'une période qui est celle de l'industrialisation, de l'émergence de l'organisation et des managers auxquels il consacrera ses bâtiments de Chicago, l'émergence aussi de matériaux issus de l'industrie, le mobilier en tube, l'utilisation du métal, l'utilisation de céramique avancée à l'intérieur des espaces.
Divorce. 1923-1924. Projet de maison de campagne en béton et de maison de campagne en briques. Non réalisé. 1925. Rencontre avec Lili Reich. 1927. Dirige l'exposition d'architecture à échelle 1 du Weissenhof à Stuttgart. Architectes invités. Gropius. Le Corbusier. Charoun. Présentation des meubles de Marcel Breuer et de Mies van der Rohe.
Anne Monnier, où sommes-nous ?
Nous sommes devant ce qu'on appelle la pyramide des chaises au sein du musée des arts décoratifs. C'est une installation qui permet de présenter l'évolution du siège au cours du XXe siècle. Et on a en haut de cette pyramide trônant la chaise cantilever de Mies van der Rohe, donc la chaise en porte-à-faux. La chaise qui n'a pas de pied antérieur, qui repose uniquement sur la façon dont le métal se rencontre sur la structure et sur les matériaux utilisés.
Est-ce que vous pouvez nous la décrire, cette chaise ?
Alors cette chaise, elle est extrêmement simple. Quand on la voit, elle est assez dépouillée. On a deux arcs de cercle en métal argenté qui se rencontrent au niveau du sol pour former la base de la chaise, qui en haut vont s'entrelacer de façon un petit peu plus rectiligne. Donc on a deux fois deux arcs de cercle pour chaque côté de la chaise. Et l'assise et le dos de la chaise sont constitués de bandes de cuir noir qui s'enroulent autour de cette structure en métal. Donc c'est vraiment une chaise qui est très économe de matériaux, mais qui est très pensée pour pouvoir tenir debout alors qu'il lui manque les pieds arrière. C'est une forme que Mies van der Rohe apprécie énormément. Elle est très moderne, elle est très dans l'esprit du temps.
Imaginez en 1927 être face à cet objet, cet ovni. On peut bien se demander, est-ce qu'elle va tenir ? Parce que ça défie les lois de la logique, même si ça défie pas du tout celles de la physique. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut arriver à tenir sur une chaise qui ne comprend que deux pieds en arc ?
Alexandra Midal.
C'est une chose bien compliquée au départ, mais qui s'avère être rigoureuse et techniquement tout à fait probante. Très vite, il va commencer à vendre ses chaises, à déposer les brevets pour sa chaise, notamment, en fait, la première qui va arriver à vendre, c'est pas la Barcelona, c'est la Portafaux. Et il va la proposer à un premier marchand, et puis il va rejoindre très vite ce qui deviendra en 1931 la Tonne Mundus, qui est installée à Zurich, et qui va lui rapporter quand même des 2 200 $ par an de copyright, donc quand même, à l'époque, une somme qui n'est pas négligeable. Donc les chaises rapportent de l'argent. Et il faudra attendre en fait plus de 40 ans avant que chez Knoll, la reproduction, la réédition d'un certain nombre de modèles ne cesse de s'accroître, de s'agrandir et mettre beaucoup plus d'objets au catalogue, les tables qu'on connaît, qu'il avait réalisées notamment pour le Weissenhof, et puis les Barcelona. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une sorte de continuité, en tout cas sur la cantilever, à partir du moment où elle a été dessinée jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment, je pense que c'est une des chaises les plus copiées au monde. Je pense que si vous allez dans certains endroits en Chine, vous allez en voir des centaines de milliers.
Il rencontre alors une femme qui va jouer un rôle fondamental dans sa vie et je dirais jusqu'à après sa mort dans la sauvegarde de ses archives, qui est une femme architecte. Elle s'appelle Lili Reich et c'est elle qui, pendant longtemps, elle s'intéresse au textile, elle s'intéresse aux meubles en acier. Et c'est elle qui va contribuer à l'élaboration des intérieurs de Mies, en gros, entre 1928 et son départ définitif aux États-Unis en 1938.
Ce qui me semble important, c'est qu'il n'y a pas justement de hiérarchie dans son mode de pensée et que l'architecture et le design vont de concert, vont de pair. Il n'y a pas à un moment l'idée, comme on peut la trouver par exemple chez Le Corbusier, avec cette notion que on ne construit pas, donc on fait des livres, donc on fait du mobilier, on sous-traite un peu le mobilier avec des dames. Dans le cas de Le Corbusier, on connaît un peu l'histoire avec Charlotte Perriand. La relation notamment que va développer Mies van der Rohe avec Lili Reich n'a rien d'un assujettissement d'une décoratrice pour le grand architecte, en aucune manière. C'est un dialogue ininterrompu et d'une certaine manière quand même, et surtout pour l'époque, il ne faut pas oublier le contexte, assez égalitaire, dans lequel Lili Reich va vraiment intervenir. Ils vont réaliser certaines pièces mobilières ensemble. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour Mies van der Rohe, le design mobilier n'est pas un détail. Il fait partie de cette tradition des architectes qui considèrent que n'importe quel élément qui se trouve à l'intérieur de leur construction architecturale doit participer du même esprit, de ce même souffle moderne. Le mobilier ne peut plus être le mobilier de papa et de maman, ne peut plus être des nids à poussière, du standing d'une autre génération, et qu'il est absolument indispensable de penser à vivre dans un mobilier qui soit un mobilier moderne.
Le grand paradigme qui apparaît sur la scène allemande à Weimar, et c'est l'idée wagnérienne de la synthèse des arts, l'idée que l'art moderne aboutissent à une sorte d'œuvre d'art totale dans laquelle toutes les disciplines seraient appelées à travailler ensemble. Alors cette idée, elle se concrétise aussi dans les institutions. comme le Bauhaus, qui est pendant longtemps essentiellement une école d'art appliqué, dans laquelle enseignent Kandinsky, Klee, Eaton, Schlemmer et autres, peu d'architectes. Et elle devient vraiment une école d'architecture à la fin des années 20, lorsque Hannes Meyer puis Mies en prennent la direction.
...1929, exposition universelle de Barcelone, architecte du pavillon allemand.
Eines Morgens wurde ich angerufen vom Wirtschaftsministerium.
Un matin, je reçois un appel du ministère de l'économie.
Man erzählte mir dort, dass England und Frankreich...
Et on me raconte que l'Angleterre et la France vont construire un pavillon.
Und Deutschland müsste auch einen haben.
Et que l'Allemagne doit aussi en avoir un.
Dann habe ich gesagt, ja, was verstehen Sie darunter? Ich kann mir nicht vorstellen.
Alors je leur demande ce qu'ils entendent par là.
Was ein Pavillon,
je ne savais pas, moi, à quoi ça ressemblait, un pavillon.
Sie sagen, ja, wir wissen das auch nicht.
Ils m'ont dit, nous non plus, on ne sait pas.
Nur nicht zu viel Glas.
Mais ne mettez pas trop de verre.
Ich habe einen flachen Bau.
J'ai fait un bâtiment plat où le toit était posé sur des piliers d'acier et les murs n'étaient pas porteurs. Nous avons utilisé de beaux marbres et différents types de verres.
Gefärbte Spiegelgläser, klare Spiegelgläser,
des verres teintés, transparents et opaques, qui mettaient la salle en mouvement,
die eigentlich nur den Raum in Bewegung brachten.
Fascinant, c'est le passage de l'architecture à l'abstraction. C'est-à-dire que...
Dominique Perrault.
Lorsque Corbu réalise la villa à Poissy, la villa Savoie, Mies réalise le pavillon à Barcelone. Ces deux bâtiments iconiques, fascinants, qui sont initiateurs d'une évolution, d'une transformation... d'une ouverture de l'architecture tout à fait extraordinaire. Mais le travail de Mies, alors que Corbu, je dirais, mure son récit architectural, sa promenade, Mies l'installe dans une ouverture, dans une espèce d'absence de limite, avec deux surfaces parallèles, une qui forme le sol, l'autre qui forme le toit. Il met 8 poteaux, des murs, je ne sais plus combien il y en a, peut-être une dizaine, une douzaine, qui se développent de façon très très libre. Ça pourrait être des rideaux, sans aucun besoin structurel. C'est-à-dire ils sont juste là pour organiser, cadrer les vues, passer des grandes perspectives à des choses plus intimes, avec le bassin, la statue, etc. Donc il y a quelque chose qui est un peu insaisissable. Il n'est pas dans le narratif, il est dans une offre, on dirait aujourd'hui, d'une dématérialisation de l'architecture.
Mies avait un grand sens du parcours, de la déambulation, d'espace que l'on peut découvrir au fil de la promenade et ou au fil de la vie quotidienne. Et évidemment, c'est ce que le pavillon de Barcelone révèle. La maison pour un célibataire qu'il construit... 2 ans plus tard, à l'exposition de Berlin, est une maison à rez-de-chaussée, complètement ouverte, construite autour d'un noyau dans lequel on trouve la salle de bain et puis des équipements de la cuisine. C'est une maison qui donne l'image d'un mode de vie totalement différent de celui des familles de la petite ou de la moyenne bourgeoisie allemande de l'époque. À tel point que lorsqu'en 1936, Ernst Neufert, qui est un architecte allemand important, publie un manuel de projet qui deviendra un best-seller à l'échelle mondiale, la maison de l'an 2000, dans ce livre, c'est la maison de Mies de 31. Elle prend la valeur d'un prototype précisément à cause de cette dissolution des limites et notamment des limites visuelles.
There have been criticisms by people who live in this country, in open-planned houses.
Il y a eu des critiques de la part des personnes qui, dans ce pays, vivent dans des maisons à plan libre. Elles disent entre autres qu'elles ne les trouvent pas pratiques, sont pleines de courants d'air, n'offrent aucune intimité, ce genre de choses.
I would not like to live in a cubicle house.
Vraiment ? Eh bien moi, je n'aimerais pas vivre dans une maison rectangulaire avec de nombreuses petites pièces. Je préférerais vivre sur un banc à Hyde Park.
Si vous deviez concevoir une maison pour vous-même, quel genre de maison réaliseriez-vous ?
I would build a very simple but very large house.
Une maison très simple, mais très grande, pour pouvoir faire ce que je veux à l'intérieur.
On a reproché à certains architectes modernes de chercher à imposer aux gens une manière de vivre, notamment dans les maisons et particulièrement dans les maisons à plan libre.
Je ne crois pas. Nous utilisons le principe de la flexibilité. Par exemple, un de nos immeubles de grande hauteur à Lakeshore Drive à Chicago compte 400 appartements. Il n'y en a pas deux dans mon souvenir qui soient identiques. Nous sommes bien obligés de fixer la salle de bain et la cuisine à un endroit donné, mais tout le reste est flexible. On peut abattre des murs et en construire.
Vous considérez le plan libre dans ce contexte comme un élément de libération?
Absolument. À mon avis, la flexibilité est de l'ordre de la nécessité.
...1930, directeur du Bauhaus. ...1932, expulsion du Bauhaus de Dessau, déménagement à Berlin. ...1933, mis sous scellé de l'école par la Gestapo, interdiction aux professeurs juifs d'enseigner.
I didn't want that the Nazis should close it. So I had to go to the headquarters of the Gestapo.
Je ne voulais pas que les nazis ferment le Bauhaus.
In the hope that I could talk with...
Après plusieurs semaines, j'ai dû aller au quartier général de la Gestapo.
I want just that he realized that it is a private school.
J'espérais parler au chef et pouvoir leur dire que c'était une école privée. Après deux ou trois semaines, nous avons reçu une lettre nous annonçant que nous pouvions continuer. Mais sous le contrôle du ministère de la Culture et de l'Éducation. J'ai réuni les membres de l'école pour leur dire « ça y est, nous pouvons continuer, mais nous ne le ferons pas ». Je propose que nous fermions le Bauhaus. J'ai écrit une très belle lettre à la Gestapo pour leur dire que c'était trop tard.
Le Bauhaus fermé, la commande bloquée, la pression faite sur lui pour qu'il entre dans les organisations nazies, ce qu'il avait fait de la manière la plus prudente et plus, je dirais, sur la pointe des pieds, service minimum. Son espace se rétrécit de façon considérable à partir de 1936 et il devient à l'époque très attentif aux appels du pied qui lui sont faits pour venir enseigner aux États-Unis. Au moment où les écoles américaines cherchent à recruter des réfugiés allemands. Ce sera le cas de Gropius, qui va être recruté par l'école d'architecture de l'université de Harvard. Mais s'il faut le savoir, avait une assez grande réputation aux États-Unis. Ses projets avaient été présentés lors de la très importante exposition du Musée d'art moderne de New York en 1932. Et c'est ainsi qu'il finit par arriver à Chicago en 1938, où il prend la direction de l'école d'architecture de l'Illinois Institute of Technology. Donc Mies est aux commandes de son école et il obtient une commande significative en 1939, qui est la construction d'un nouveau campus pour l'IIT. Mies va établir un plan d'ensemble qui est son premier grand projet d'urbanisme, pourrait-on dire, et peut-être au total son projet le plus ambitieux, qui est l'idée d'un campus construit sur un plan complètement modulaire. C'est une espèce de grande zone industrielle au service de l'enseignement et de la recherche.
Centre de recherche sur les minéraux et les métaux, centre de recherche technologique, centre de recherche métallurgique et chimique, Commons Building. 1944, citoyenneté américaine. 1956, Crown Hall.
Des années après, je suis allé à Chicago, donc dans le Crown Hall, où je connaissais quelqu'un qui étudiait l'architecture là-bas, donc puisque c'est la fac d'architecture.
Stéphane Zimmerli.
Et j'ai fait pareil, je suis resté pendant longtemps, pendant 2 heures, je crois, assis au même endroit, parce que je me suis dit, je vais commencer à faire un dessin. Il n'y a pas grand-chose à dessiner, il y a 4-5 lignes, donc c'est particulier en fait, c'est très difficile à capturer ces bâtiments. Et c'est là, par le dessin, on se rend vraiment compte de l'absence de l'architecture. C'est hyper intéressant, c'est très fort. Et le dessin oblige aussi la temporalité, qu'on n'a pas avec la photo. On est obligé d'attendre une heure, 2 heures que la main ait fait les traces sur le papier, que l'œil ait réussi à décrypter les proportions, la lumière, la texture des choses. Et la seule chose dont je me rappelle vraiment du Crown Hall, quand j'y repense maintenant, c'est le bruissement et le mouvement des arbres autour et de la lumière à travers les arbres. Enfin, donc c'est pas le Crown Hall lui-même, hein, mais c'est ce qu'il donne à voir. Et dans un deuxième temps, je me rappelle de l'immensité du toit, des détails de la manière dont les vitrages sont tenus, etc. Des détails viennent qu'évidemment on regarde en tant qu'architecte et qui sont toute la gloire de Mies van der Rohe, bien sûr, les détails, mais en fait, c'est pas la première chose qui me revient. La première chose, c'est la lumière dans les arbres et le mouvement des arbres autour.
Damit verbracht, den jungen Studenten Zeichen beizubringen.
Quand je suis arrivé, le cursus était de 4 ans. Alors nous avons décidé que la première année, les jeunes étudiants passeraient leur temps à dessiner. Mais je veux dire, à vraiment dessiner, de manière très exacte.
Die wirklich fähig sind, klar und logisch über ein Problem.
Je pensais qu'après un tel processus, on était vraiment capable de résoudre un problème de manière claire et logique.
The only way you can train a student is to give that student literacy. In other words, you say draw.
La seule manière de former un étudiant, c'est de commencer par le béaba. Dites-lui, dessine un mur de briques de Mies, puis dessine un mur de briques de Wright. On peut sentir dans sa main la différence entre Mies et Wright, simplement en dessinant des murs de briques. Pour comprendre l'architecture, il ne faut pas simplement la regarder, mais ressentir ce que ça fait dans sa propre main quand le crayon touche le papier.
Comme bâtiment universitaire d'architecture, il est fantastique. Les étudiants l'aiment beaucoup aussi. Il y a une sensation de communauté, en fait, qui vient parce qu'on est tous encapsulés sous ce même toit. On est protégés par ce même toit. On est un peu sous la même lumière aussi, qui vient du plafond, qui est un peu écrasante, qui est un peu étrange, qui est presque anxiogène aussi. Et c'est ce que j'ai aussi ressenti à Chicago, par exemple dans le grand bureau de poste qui est au centre de la ville. C'est que sous ces grands ciels artificiels, ces grandes grilles constructives qui nous donnent l'ombre pendant la journée et nous dispensent la lumière le soir, il y a quelque chose qui n'est pas complètement positiviste. En même temps, c'est un grand temple grec contemporain, c'est cette espèce de vision d'un grand toit, d'une architecture élémentaire de piliers, de poutres. Et en même temps, c'est aussi un laboratoire, au sens anxiogène que peut prendre le laboratoire.
I remember one day Mies coming into our studio and looking at a drawing.
Je me souviens qu'un jour Mies est entré dans notre studio et a regardé un dessin accroché au mur.
And he looked at that drawing.
Il s'est assis là avec son cigare et a regardé ce dessin.
He didn't say anything. He puffed on his cigar.
Il ne disait rien, il tirait sur son cigare et nous étions tous de plus en plus nerveux.
And then he said, "Yaya, got up." And walked away.
Puis il a dit « Ya, ya », s'est levé et sorti. Ce fut une expérience très puissante, car il captait votre attention de manière si aiguë sur votre travail que vous saviez ce qu'il fallait améliorer et ce qui n'était pas bon. C'était comme un travail subliminal. Bien entendu, Mies avait un prestige incroyable, il était le maître, et ce prestige incroyable lui permettait d'enseigner par le silence.
Mies s'intéressait beaucoup à l'Amérique avant d'y arriver. Il avait évidemment essayé de dépasser les gratte-ciels de New York en 1921. Il avait réfléchi beaucoup sur la grande ville. Il se projetait sur l'Amérique avant de débarquer à Chicago. Et il y trouvera un milieu très, très favorable, puisque Mies retrouve cet idéal qu'il avait rencontré à Berlin, dans l'agence de Behrens, c'est-à-dire... l'architecture donnant forme à la grande industrie ou au bâtiment ou au grand capital, je dirais. Après la guerre, il commence à y rencontrer des promoteurs qui lui feront confiance pour construire enfin des immeubles en hauteur à ossature de métal. En 1954, Sam Bronfman, qui est le propriétaire des whisky Seagram, qui a notamment fait fortune sous la prohibition, Bronfman décide de transformer son siège à New York. Il cherche des architectes. Sa fille Phyllis, qui est à l'époque étudiante au collège de Vassar, mène l'enquête pour lui. Elle tombe sur Mies. Et immédiatement, elle comprend que c'est à Mies qu'il faut donner la commande. Et elle va travailler avec lui à faire ce bâtiment.
Phyllis Lambert.
Quand je suis allée à Chicago, j'ai vu 80860 Lakeshore Drive, qui est un bâtiment magnifique. Dans ces deux bâtiments qui jouent entre eux sur en face de le lac Michigan. Et c'était très impressionnant, vraiment. Il n'y avait pas un gratte-ciel de cette clarté, de ces proportions. Et c'était très, très beau, c'est très sévère, mais très, très beau. Alors j'étais fort impressionné. Et puis j'étais fort impressionné par Mies van der Rohe lui-même.
imagine un langage qu'il va développer ensuite dans tous ses projets. Donc c'est un langage dans lequel, contrairement à ce qu'il avait préconisé et pratiqué dans les années 20, là, les ossatures sont cachées, mais dans une sorte de méta-ossature. C'est-à-dire qu'il reproduit avec un revêtement d'acier qui est réalisé autour de l'enveloppe de béton à l'intérieur de laquelle se trouve le véritable poteau, il recrée une sorte de méta-poteau qui donne l'idée de l'ossature. Donc, et là se trouve l'originalité de Mies, qui n'a pas le culte de l'honnêteté structurale absolue. L'important n'est pas que ce soit le véritable élément porteur, l'important c'est que cela l'évoque, que cela le représente.
Mies avait dit, en 55, quand il construisait le bâtiment Seagram, si vous me demandez qu'est-ce que c'est mon architecture, je dis mon idée, c'est une idée structurale. Et effectivement, c'était un squelette en acier avec un revêtement qui, pour le bâtiment Seagram, c'était en bronze. Mais ça, ce n'était pas tout de suite qu'il avait décidé ça, mais quand même qui représentait toujours cette idée structurale.
Le Seagram a une grande caractéristique, c'est que le bâtiment est en retrait par rapport à l'avenue et n'occupe pas, au risque de perdre des étages de bureaux, donc au risque de perdre de l'argent, le bâtiment n'occupe pas toute l'emprise. Il recule pour se présenter comme une sorte de monument, comme une sorte de grande stèle depuis Park Avenue.
Mies faisait ceci, il mettait le bâtiment en retraite parce qu'il disait que quand vous marchez dans Park Avenue avec les gratte-ciel qui était collé contre les trottoirs, même si c'était que 10 étages. 10 étages, c'est beaucoup quand vous êtes une petite personne sur la rue, sur le trottoir. Et on ne voyait jamais le bâtiment comme entité. Mies a toujours insisté à avoir un lien entre la nature et le bâtiment, la maison et le jardin qui devient par la suite le bâtiment et le paysage de la ville. Vous n'êtes jamais collé, vous êtes toujours libre. Quand je suis à New York et je suis sur Park Avenue et je regarde Seagram et puis les proportions, les matériaux, des matières qui ne s'usent pas, qui tiennent. Si on met du béton, ça craque et c'est affreux. Mais si on met de bon granit, ça tient. Alors, tout ça, c'est lié ensemble. Et c'est simple. J'avais l'art difficile d'être simple.
Ça finit par réaliser son l'idéal qu'il avait formulé en 1921, c'est ça qui est exceptionnel. Finalement, considérons ce mouvement, c'est un Allemand fasciné par l'Amérique, mais critique des gratte-ciel éclectiques américains, qui, arrivant aux États-Unis quelques décennies plus tard, réécrit l'architecture du gratte-ciel américain. Donc, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, finalement. Et il le fait avec ses bâtiments, mais évidemment, il est très, très, comme tous les classiques Mies qui sont faits pour être copiés ou plagiés, Mies va très rapidement voir ses idées déformées, reprises par les architectes de Chicago, New York.
...1955, ensemble d'habitations de Lafayette Park, Detroit. 1964, Federal Center, Chicago. 1969, Toronto Dominion Center. Nombre de tours réalisées en Amérique du Nord, 32. 1969, mort à Chicago.
Miss a dit qu'il voulait que montrer comment on pouvait le faire, alors il l'a fait, mais c'était toujours des imitations, c'était jamais... Vous savez, la grande chose avec Miss, c'était pas juste un architecte qui roule ses manches et qui dit « voilà, on va construire ça ». C'était un philosophe, et puis pour lui, c'est dans quelle société est-ce que nous vivons? À quelle époque est-ce que nous vivons? Qu'est-ce que c'est pour lui? C'était vraiment l'époque d'économie et de... le scientifique, la structure, la construction, l'industriel. Alors, son travail était conséquent à ça. Il lisait beaucoup les philosophies, énormément.
En définitive, que reste-t-il de l'architecture de Miss aujourd'hui, et pourquoi reste-t-elle aussi, aussi captivante, aussi, je dirais, aussi puissante? C'est une architecture intelligible, ça n'est pas une architecture mystérieuse, c'est une architecture, mais c'est quand même une architecture qui a des coulisses, qui ne se donne pas tout de suite, c'est une architecture qui invite à la déambulation. Elle permet sans doute ce que Nietzsche, dans le Gai Savoir, déclarait attendre de l'architecture. Il parlait d'une architecture pour les connaissants, pour ceux qui y entendent quelque chose, et il disait que c'était une architecture qui devait nous promettre de nous promener en nous-mêmes. Et je trouve que l'architecture de Miss, dans son aspect laconique, dans son ouverture, sa grande ouverture au paysage, sa capacité à le capter aussi, nous permet cette promenade.
I like simple things.
J'aime les choses simples.
You know, you have to teach people to accept that and to do this.
Mais il faut apprendre aux gens à accepter ça et à faire les choses simplement.
You know, we could have a marvelous city and a marvelous
nous pourrions d'ores et déjà avoir des villes et des architectures merveilleuses, mais tout est encore très confus. Tout le monde est individualiste. Or, l'architecture n'est pas un art individualiste. Elle dépend de son temps. À l'époque baroque, vous pouviez faire ce que vous vouliez. Nous ne pouvons plus faire ça.
Ludwig Mies van der Rohe, La simplicité est un long voyage. Avec Jean-Louis Cohen, Dominique Perrault, Phyllis Lambert, Stéphane Zimmerli, Anne Monnier, Alexandra Midal. Voix Peter Bonke et Andrea Schiffer. Archive Conversation Regarding the Future of Architecture, 1956. Entretien avec la BBC, 1959. Miss par Michael Blackwood, Miss van der Rohe par Georgia van der Rohe. Traduction Eve Minot. Prise de son et mixage Thomas Robin, Philippe Etienne, Arthur Gerbeau, Claude Niort. Réalisation Lionel Quentin. Un documentaire de Camille Jusa.
C'était Une vie, une œuvre. Une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Bibliographie, liens, réécoute, podcast et commentaires, c'est sur la page de l'émission, sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et la semaine prochaine, nous serons avec celle qui aimait sa fille et le lui disait par lettre interposée, Madame de Sévigné.